dans cette question du célibat, il y a parfois une forme de honte, de culpabilité. Je vois ça dans les contacts personnels que je peux avoir avec les jeunes. Par exemple, des choses très concrètes, si vous avez des frères et sœurs qui sont déjà mariés, eh bien, l'agenda, par exemple, des vacances, se fixe, surtout s'ils ont des enfants, se fixera avec eux, avec leur agenda, et non pas avec votre agenda. Oui, cette question-là de l'agenda et du rapport au temps, qui fait qu'on sent qu'en fait, on est que dès qu'il y en a un dans la fratrie qui est marié et a fortiori qui a des enfants, c'est lui qui donne le tempo. Et vous, vous suivez cas à cas, et puis carrément, on vous demande pas votre avis. On dit, ben voilà, on se retrouvera, on a pour les vacances, par exemple, d'hiver, on a loué un chalet à la montagne, ou etc., ou quoi qu'est-ce, ou les vacances d'été. Surtout pour la question des vacances, vous voyez, où là, vous ressentez peut-être plus douloureusement que d'autres que vous n'êtes pas tenu en compte. Donc il y a une forme de culpabilité, voire de honte, de dire que comme ce n'est pas un état, comme ce n'est pas quelque chose qui est reconnu dans ma famille, et singulièrement les familles catholiques, et voilà, je sens une forme de gentille pression de mes chers parents me demandant alors où tu en es, etc., à demi-mot, etc., quand votre plus jeune frère, votre plus jeune sœur s'est déjà engagé dans le mariage, par exemple, et que vous êtes l'aîné, et qu'il y en a deux ou trois après vous qui ont déjà fait ce choix. Vous voyez, donc une forme de honte, de culpabilité, et je pense que c'est important de dire les choses, de mettre la main là-dessus, d'être attentif à ce point-là. Donc ça, c'est une forme d'introduction. Je dirais d'abord que le célibat, c'est ce temps de célibat, donc vraiment ne pas être dans une relation amoureuse, c'est, moi je le vis de façon positive. Comment vivre positivement le temps du célibat ? Je pense que c'est l'enjeu de ce topo, c'est qu'est-ce qu'on peut avoir de positif dans quelque chose que l'on n'a pas choisi ou que l'on n'aurait surtout pas choisi, peut-être, j'en sais rien. Ou que si, ça vous convient bien. Certains le vivent très paisiblement, d'autres le vivent de façon plus douloureuse. Donc, comment vivre ? Je veux dire, première chose, l'accueil de la réalité. L'accueil de la réalité, reconnaître sa situation de célibataire, faire attention à une forme de déni qu'il peut y avoir, hein, se faire et puis prendre conscience que cette réalité, savoir avec vos valeurs, avec ce qui donne du sens pour vous, rentrer dans aussi une certaine attention particulière au don de soi, hein, l'accueil de la réalité, c'est aussi ça. D'être attentif à sa propre réalité, de regarder par le passé, vous avez peut-être eu des histoires qui n'ont pas fonctionné. Ben, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Ces réalités-là. C'est l'accueil de la réalité, c'est aussi l'accueil d'une manière de se donner. Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui fait que la beauté d'une personne, ce n'est pas la plasticité d'une personne, c'est d'abord sa capacité de don. Et c'est ça qui fait la beauté d'une personne. Hein, sa capacité de don, quel est le lieu où je me donne, où je suis enraciné, connu pour ce que je suis? Est-ce que j'ai choisi dans mon cœur un lieu où porter du fruit? Qu'est-ce qui porte du fruit aujourd'hui dans votre vie? C'est aussi ça l'accueil de la réalité. Qu'est-ce qui fait que vous fleurissez là où vous êtes planté? Vous voyez, et sans attendre un après, sans attendre ailleurs c'est mieux, ou l'herbe est plus verte ailleurs, et donc une sorte de zapping, tellement habitué, présent dans nos sociétés, hein, non mais de dire, où est-ce que je porte du fruit? Le temps du célibat, c'est l'accueil de sa réalité dans ce sens-là, l'accueil de quelle est ma fécondité. C'est pas le célibat ne s'oppose pas à fécondité, au contraire, le célibat est un lieu de discernement de ma fécondité. Où est-ce que je porte du fruit et du fruit en abondance? Quelle est la terre dans laquelle je suis enraciné? Vous vous rappelez la parabole du semeur, hein, qui est sorti pour semer, qui a jeté du grain dans la terre. Quelle est cette terre du centuple où je porte du fruit et je suis, je me descends de moi-même? Parce que quel que soit le choix que vous ferez dans l'avenir, ce sera à voir avec un décentrement de vous-même. Forcément. Hein, c'est parce que ce soit la vie consacrée dans le célibat, que ce soit la vie matrimoniale ou d'autres formes de vie, etc. Mais en tout cas, tel que nous avons la vision comme disciple de Jésus de la personne humaine, elle est faite pour aimer et faite pour se donner, à l'exemple du Christ qui nous a donné ce commandement nouveau. Donc, c'est intéressant de posez-vous la question, où est le lieu de mon don? Où est le lieu de mon enracinement? Où est le lieu de où sont les pièges? Où est-ce que j'ai à purifier quelque chose dans le sens d'un activisme? Particulièrement vous qui êtes à Paris, avec des sollicitations pratiquement toutes les soirées. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à purifier dans ma manière de voir l'agenda et d'avoir une sorte d'activisme, de mettre dans 24 heures plus que 24 heures, qui est aussi assez moderne, assez dans l'air du temps, mais qui n'aide pas à se poser les vraies questions. Accueillir sa réalité, c'est se poser les vraies questions. Quel sens je veux donner à mon existence? Et puis, un autre point, je trouve important, le célibat, c'est un temps de connaissance et de construction de soi. Un temps de connaissance, de construction de soi, après une petite introduction, le célibat comme l'accueil d'une réalité, un temps de connaissance et de construction de soi. Quels sont mes talents? Quelles sont mes blessures? Et donc relire, voire relier aussi son histoire, faire relier, c'est-à-dire faire le lien entre les différents moments de mon histoire, histoire familiale, histoire d'étudiant, histoire amoureuse pour certains, si vous en avez eu, et puis relire, où est-ce que j'ai des points, quelle est ma personnalité, où est-ce que j'ai des points à travailler, qu'est-ce qui me rend heureux, de poser des questions toutes simples, de prendre conscience de sa manière de fonctionner, parce que parfois on reproduit sans se rendre compte, on reproduit un schéma familial. Et il faut faire éviter plusieurs pièges. D'abord, la fuite de ses propres sentiments, soit parce que vous êtes célibataire, que vous n'éprouvez pas les choses, vous avez évidemment des émotions, et c'est important d'être connecté à ces émotions, parce que précisément la connexion à ses propres émotions va vous indiquer un chemin. Oui, c'est parce que le Seigneur nous travaille de l'intérieur. Nous sommes les premiers prévenus de ce à quoi nous appelle le Seigneur. Et ça passe aussi par des émotions, ce que Ignace de Loyola appelait consolation, désolation. Voilà, c'est notre vie intérieure. Où est-ce que j'en suis dans la vie intérieure, dans ce que je porte, dans ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui, au contraire, est douloureux? Cette intériorité, je trouve que le célibat, c'est le temps de l'intériorité. Alors, tous les temps sont les temps de mais peut-être de façon plus particulière, c'est une sorte de... d'aller au désert d'une certaine manière, de recueillement, de se recueillir en pas d'enfermement, de recueillement, parce que c'est un lieu de don de soi, je vous ai dit, mais de recueillement, de rassemblement de ses forces, de questionnement intérieur pour aller dans un choix de vie. Donc il faut éviter donc la fuite de ses sentiments, éviter au fond l'amour comme une fusion, et donc ça c'est aussi un piège, et éviter évidemment d'avoir des peurs par rapport à une relation amoureuse quelle qu'elle soit, et de voir l'amour comme quelque chose qui me met en danger. Et quelle que soit notre vocation, nous sommes appelés à l'amour. Et donc du coup, c'est intéressant de pouvoir travailler sur soi, de voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'autonomie affective, où est-ce qu'on en est au niveau l'accusation de soi ou des autres, où est-ce qu'on en est au niveau du pardon. Est-ce qu'on a besoin de l'aide d'un tiers bienveillant, quelqu'un qui va m'aider à cheminer? Je sens qu'au niveau, par exemple, de ma colère, j'ai besoin de travailler ça. C'est le signe de quoi, cette colère? Pourquoi s'enfoncer? J'ai tellement besoin de relations, et à la fois, je casse les relations. Vous voyez, c'est intéressant. Ou j'attire toujours les mauvaises personnes. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, donc, ce temps de relecture de soi-même, de connaissance de soi-même, je pense que c'est un temps important. Un autre point, c'est le temps de la purification de l'amour. Le temps de la purification de l'amour, des fausses conceptions de l'amour. L'amour qui serait quelque chose d'irrationnel, par exemple. Quelque chose de comblant. Non. Aimer l'autre ce qu'il peut me donner, bien, il peut me donner son humanité, il peut me donner, mais il faut renoncer aussi à être comblé par l'autre. Seul Dieu, dans le face-à-face, peut nous combler. Et même dans la foi, on le sait très bien, la foi, c'est ce qu'on appelle un régime d'indigence. C'est-à-dire, faute de mieux, faute de quoi, faute du face-à-face. Mais dans la foi, on n'est pas comblé parce que précisément, hein, le Seigneur ne nous est pas manifesté son visage comme il le sera dans l'éternité. Donc, c'est au fond, je trouve, dans cette purification, accueillir la limite, accueillir le manque, accueillir ce qui peut-être, et dénoncer ces idolâtries qui font de l'amour une forme de fusion, une forme de, et de confusion, évidemment, parce que, comme si c'était irrationnel, voilà, comme si c'était, on voit bien, on entend parfois dans la radio, etc., donc, j'y ai pas pensé, j'ai pas raisonné, donc c'est bon. Vous voyez, c'est comme si la raison était notre ennemi. Mais non, notre raison, on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, et par notre intelligence, et par notre volonté. Je veux dire, c'est ça qui va faire, au contraire, qui est le cœur de notre humanité. Hein. Comme s'il fallait, pour découvrir soit quoi, qu'il fallait complètement lâcher prise de ses capacités intellectuelles et ses capacités de vouloir. Or, aimer, c'est vouloir, vouloir, c'est aimer. Oui, donc ces fausses visions de l'amour, ces visions très émotionnelles de sentiments amoureux, qu'on entend, vous entendez ça, marié au premier regard, par exemple. Parce que vous avez écouté les émissions marié au premier regard, et puis divorcé au deuxième en général, c'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est hallucinant comme émission, mais il semblerait que ça. Voilà, de nos contemporains, ça les touche. Marié au premier regard, ah, c'est magnifique. Voilà. Tordre le cou absolument à l'homme et la femme de ma vie. Tordre absolument le cou à ça. Vous voyez, c'est des fausses. Qui sont des obstacles dans l'engagement. Vous voyez, c'est autant de fausses illusions, de fausses visions de l'amour qui mettent un obstacle pour aller plus loin dans le don. Parce qu'on a ou le côté très idéaliste, ou le côté aussi très providentialiste. Ben c'est Dieu qui nous a mis. J'attends des signes, etc. Et donc, certains voient des signes un petit peu partout, etc. D'autres, voilà. Oui, qu'il y ait des signes, je crois qu'il y ait des signes, bien sûr, que Dieu agit dans l'histoire. Évidemment, c'est au cœur de notre foi, par l'incarnation et le Christ, qui est le Verbe fait chair, agit dans l'histoire et continue par son Saint-Esprit. Mais ça ne nous dispense pas d'un travail sur nous-mêmes. Ça ne nous dispense pas d'une purification de l'amour. Et parfois, au plan spirituel, il peut y avoir cette manière de voir, voilà, que comme si ça allait être, comme si, d'une certaine manière, ça se ferait sans moi. Ça allait être un Deus ex machina, comme on dit, qui tire les ficelles et qui nous met ensemble. Ben non, c'est pas ça. C'est pas la vision. Ou comme si c'était prédéterminé d'avance. Non, c'est pas non plus ça. C'est beaucoup plus beau que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est un vrai choix, une vraie liberté qui s'engage, un vrai consentement qui se donne. Donc, je trouve ça intéressant, cette purification, hein, de ce mythe de l'âme sœur, de l'amour romantique, narcissique. Hein, donc, de se rappeler que l'amour n'est pas d'abord un état, c'est d'abord un acte, hein, qu'on ne peut pas. On peut faire naître, on peut éteindre, on peut faire grandir, diminuer. Hein, et qu'il y a une vraie connaissance. C'est intéressant de voir que le mot connaître en hébreu désigne la relation intime de l'homme et de la femme. Donc il y a une vraie connaissance de l'autre. Et je pense que si on mettait plus de raison dans les relations amoureuses, très certainement il y aurait moins d'échecs. Hein, bien sûr qu'il y a la partie émotive, la partie sentimentale, bien sûr, mais une vraie volonté et une vraie réflexion est au service de l'amour. Donc c'est aussi une purification pour se demander de quelle manière la solitude que je vis actuellement peut être aussi une alliée. Vous savez, c'est parce que je suis capable de vivre la solitude que je serai capable de vivre la communion. Parce que ceux qui attendent une relation amoureuse parce qu'ils veulent fuir leur solitude vont dans le mur, vont absolument dans le mur. Et ça, où est-ce que j'en suis de cette, justement, je vous parlais d'aller au désert, est-ce que vous êtes prête à cette dimension de solitude qui une solitude qui est habitée, vous voyez, une solitude qui est habitée par la foi, par la prière, une solitude dans laquelle le Seigneur travaille notre cœur. Hein. Le désert, c'est le lieu de la tentation avec le diable, on le sait très bien, mais le désert va te conduire au désert et je parlerai à ton cœur. Le célibat, c'est un temps de désert d'une certaine manière. Donc, après ce temps de la purification, j'ai un autre point, c'est le temps, le célibat, de l'amitié. Je trouve ça très important. C'est le temps de l'amitié. Et j'aimerais vous questionner sur ces questions de l'amitié. Vous savez que pour Aristote, il y a plusieurs conditions à l'amitié. Entre autres, premièrement, la bienveillance, hein, vouloir le bien. Ensuite, la réciprocité, ce qui est très différent d'une relation d'aide. Une amitié n'est pas une relation d'aide. La relation d'aide, c'est le médecin et le patient, c'est le professeur et l'élève, c'est le parent et l'enfant. Mais une relation d'amitié n'est pas une relation d'aide. Alors oui, on peut se donner des coups de main, etc., mais je ne suis pas la béquille de l'autre. Et a fortiori, une relation d'amour n'est pas une relation d'aide. Et parfois, il y a des fausses amitiés. Hein, donc, l'objectif que l'on vise, hein, c'est Aristote qui parle dans son éthique à Nicomaque, quand il parle de l'amour d'amitié, etc., c'est très intéressant. Il dit il y a l'amour soit utile, soit agréable, soit l'amour de bienveillance. Vraiment, je veux le bien de l'autre. L'utile, c'est-à-dire tu as une voiture, mais pas de permis, j'ai le permis, mais pas de voiture, par exemple. Bien, du coup, on peut peut-être faire quelque chose, ben, c'est utile, mais c'est une forme d'amitié. Il y a une certaine forme d'amitié entre collègues, mais uniquement motivée par la réalisation d'un objectif commun. Ensuite, agréable, ben, c'est juste agréable d'être ensemble, on a de la joie d'être ensemble, etc. Et puis, une amitié qui est la plus grande, quand Aristote traite cette question-là, c'est la question de la bienveillance, vouloir le bien de l'autre. Et j'aimerais vous questionner sur ces questions, sur cet aspect de l'amitié. Que ce soit un temps d'amitié. Est-ce que vous avez un premier cercle? Et là aussi, je me méfie beaucoup de cet activisme en amitié qui fait qu'on va de cercle d'amis en cercle d'amis, on virevolte comme ça, sans avoir de premier cercle à qui se confier. Est-ce que vous avez déjà des personnes qui peuvent vous approcher de près, qui savent ce que vous portez, qui savent vos combats, qui savent vos intentions, qui prient pour vous, auxquels vous pouvez avoir recours, ou au contraire, vous êtes dans cette solitude, mais qui écarte les autres uniquement avec la multiplicité des relations, la multiplicité des contacts. Hein, je m'appelle sur Facebook, il y avait une image comme ça, un peu amusante, on voyait un enterrement, il y avait deux personnes. Et l'un dit à l'autre, pourtant il avait 5000 amis sur Facebook. Donc, voilà, ces amitiés de numériques, on sait très bien, bon, valent ce qu'elles valent, mais justement à l'ère du numérique, c'est intéressant de dire quel est le contact. Donc c'est le temps pour creuser des amitiés, le temps que vous avez ici, de faire des amitiés profondes, de faire des amitiés où vous pouvez vous confier, vous pouvez vivre des moments de qualité, vous pouvez connaître l'autre et vous connaître l'autre et avoir dans l'ami, un reflet de qui vous êtes aussi. Donc je trouve ça, c'est intéressant de pouvoir travailler là-dessus, de faire l'audit d'une certaine manière de ces amitiés et peut-être pourquoi est-ce que j'ai si peu d'amis, pourquoi je garde beaucoup à distance les uns les autres, je me méfie de laisser de me rentrer dans mon espace intérieur ne serait-ce qu'une ou deux personnes, pourquoi j'ai cette méfiance-là, je suis dans une attitude méfiance, le mot est fort, en tout cas je préfère garder les uns les autres un peu à distance. Pourquoi cette distance? Pourquoi je ne laisse pas, au moins pour le premier cercle d'amis, percer un peu une carapace et montrer ce qui m'habite? Je pense que de ce côté-là, c'est aussi une manière de se fragiliser. Hein, et on le sait bien, rentrer dans une relation amoureuse, c'est aussi accueillir sa vulnérabilité. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. Donc, et attention aux fausses amitiés, évidemment utilitaristes, mondaines, superficielles, etc. Donc, c'est le temps et le temps des vraies amitiés, des amitiés qui comptent. Et je pense que là aussi, peut-être travailler là-dessus, de dire est-ce que je me disperse pas en amitié par peur d'affronter la solitude. Hein. Donc, et puis n'oublions pas que bien souvent c'est dans les réseaux d'amis que l'on trouve la personne avec qui faire ensuite sa vie et former un couple. c'est pour ceux d'entre vous qui sont appelés au mariage. Donc c'est le temps de l'amitié, c'est aussi le temps d'oser la relation, hein, oser la relation à deux, diversifier ses ressources, savoir demander de l'aide. Où est-ce que vous en êtes de ça? Ou est-ce que vous êtes tellement autonome, autosuffisant, que non, j'ai besoin d'aide de personne? Oui, ça aussi, ça vous rend inatteignable, et ça vous enferme. C'est le fait justement de ne pas savoir demander de l'aide, tout simplement. Vous voyez, soyez attentifs à ce point-là, donc risque d'un enfermement, voilà, donc... Aller parfois vers l'inconnu, vers des relations qui sont profondes, qui sont enracinées, qui vont vous aider à travailler sur vous-même. C'est le temps de l'amitié, je trouve. Et puis ce temps de l'amitié, il peut passer aussi au temps de l'amour, parce que vous le savez, entre l'amour et l'amitié, il y a une différence de degré, mais il n'y a pas une différence de nature. Il y a une différence de degré, mais pas une différence de nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour est aussi une amitié. C'est pas parce qu'on se marie avec quelqu'un que la personne cesse d'être mon ami. Au contraire, c'est parce que notre amitié homme-femme est déjà très, très enracinée, qu'on a de l'attirance l'un envers l'autre, que l'on a plus, etc., qu'on se pose la question d'aller plus loin. Mais c'est d'abord, tout commence par une amitié. Tout commence par une amitié. Donc ce passage de l'amitié à l'amour, donc c'est l'accueil aussi de l'altérité qui est une condition de l'amour. C'est travailler sur le fait que l'autre soit autre que moi. C'est ça l'altérité, qui est absolument capitale dans nos vies et qui nous coûte. C'est le travail d'une vie. On aimerait tellement que les autres soient à notre image et ressemblance. On a une manière de fonctionner, un rapport au temps, d'organiser les choses, et on voit que dès qu'on est en contact avec d'autres, des personnes, en fait, c'est pas la même chose qu'ils vivent. Je trouve que c'est intéressant ce temps du célibat pour prendre conscience que l'altérité, d'accueillir l'autre avec sa manière différente d'être, c'est ce temps-là qui prépare à l'amour. Parce que forcément, dans la vie de couple, comme dans la vie de célibat consacré, c'est l'accueil de l'altérité. C'est forcément, ça c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Maintenant, à quoi est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est amoureux? Ça peut être intéressant aussi. À quoi est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est amoureux? Je pense que... c'est être désirer la présence de l'autre. Quand vous dites, tiens, j'aimerais bien avec cette personne-là. En fait, à quoi est-ce qu'on reconnaît, ne serait-ce que ça, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on est ami? Aristote, il dit, les amis aiment à passer du temps ensemble. Les amis aiment à passer du temps ensemble. Quand on recherche la présence de l'autre, c'est qu'on est déjà ami de l'autre. Et que l'absence de l'autre nous coûte et sa présence nous réjouit. Et quand, dans une relation homme-femme, cette amitié s'établit, en tout cas, une des conditions pour qu'un amour puisse naître. Donc, posez-vous la question, quelles sont ces amitiés qui vous dites, tiens, cette personne-là, elle fait vraiment partie de ma vie. Oui, si cette personne-là, par exemple, venait à disparaître, ce serait vraiment un choc, un drame considérable pour moi. Ou est-ce qu'au fond, vous êtes tellement dans une solitude, tellement enfermé, tellement verrouillé, que vous ne laissez pas beaucoup toucher. Oui, donc j'aime bien cette question de ce passage de l'amitié à l'amour, parce que l'amitié est déjà une préparation. Mais pareil aussi dans une vie consacrée, si vous vous posez la question d'une vie consacrée, quel que soit, ça doit être quel que soit le style de vie, d'un célibat choisi pour le coup, posez-vous la question, qu'est-ce qui, dans les amitiés que j'ai pu avoir, prépare au fond cet état de vie? Si je suis là devant vous, c'est grâce à des amis. C'est grâce à des amis. Je me rappelle très bien, je travaillais à Lyon, etc. Et c'est des amis qui, enracinés dans la foi, moi, de tradition catholique, je veux dire, mes parents étaient paroissiens habituels, voilà, mais peu impliqués, et je vois des jeunes très impliqués comme vous l'êtes, etc. Ça m'a beaucoup attiré, ça m'a réveillé en moi. On a participé ensemble à une retraite. C'est des amis qui m'ont conduit à la consécration. Oui, je veux dire, prenez conscience qu'une amitié, c'est pas rien. c'est des amis qui aussi, dans un chemin de consécration, sont partie prenante, voire peuvent être vraiment des acteurs envoyés par le Seigneur pour conduire la personne vers sa consécration. Ça a été mon cas, en tout cas. C'est grâce à des amis que je suis devant vous. Vous voyez, donc, je trouve que c'est important, cette question de l'amitié à l'amour, à se donner. Et donc, ça veut dire, c'est vrai, une certaine liberté face au regard de l'autre, hein, faire attention, je vous l'ai dit, à l'interprétation du signe, des signes, et pas tomber dans ce qu'on appelle un providentialisme, hein, c'est-à-dire comme si Dieu décidait tout à notre place, hein, et s'avouer à un moment donné que oui, il y a des personnes de l'autre sexe, et peut-être un petit mot sur cette relation, toujours l'éternelle question, amitié garçon-fille, etc. C'est, pourquoi pas, oui, il y a des amitiés, mais dès qu'on commence à aller dans quelque chose de plus profond, on ne peut pas, on est d'abord ami du corps de l'autre. On est ami du corps de l'autre. C'est-à-dire que c'est la première chose que j'ai vue de vous, c'est votre corps. Et qu'est-ce que vous avez vu de moi? C'est mon corps, c'est-à-dire mon visage, etc. On est d'amis du visage. Il y a des visages qui nous attirent, des visages qui nous répulsent, etc. Bon, il y a le premier contact avec n'importe qui, inconnu. Et donc, évidemment, dans l'altérité sexuelle, homme-femme, cette amitié, je trouve, est parfois plus difficile à vivre. Je ne dis pas qu'elle est impossible, mais en tout cas... on est attiré, il y a quelque chose, on se complète les amis se complètent l'un l'autre. Et s'il y a cette altérité homme-femme, eh bien, ça peut, c'est précisément bien souvent là où naissent les amours. Donc, d'être attentif, en tout cas, que ne pas entretenir des liens ambigus, ne pas entretenir des liens qui seraient là pour jouer un peu de toutes les questions à voir avec la séduction, par exemple, doivent être tout à fait sont hors de propos, parce que la séduction, c'est un certain jeu. Oui, c'est une forme de jeu que vous avez avec l'autre, etc. Mais vous n'êtes pas dans une vraie relation. Et dès que vous êtes dans une relation amoureuse, cette relation amoureuse, c'est ce qui compte le plus. C'est-à-dire qu'il faut redimensionner les amitiés. Autant le célibat, c'est le temps de l'amitié, mais autant le temps de la construction du couple, je trouve qu'il y a, au contraire, c'est le temps d'un recentrement sur soi, se travailler sur la relation, et puis ensuite les différentes étapes, si ça avance, si vous voyez que... Voilà, se donner la priorité, hein, voire l'exclusivité, pendant un temps en tout cas, au couple naissant. Donc... vous voyez bien que cet amour, il vient dans le désir. Vous vous dites, tiens, il y a quelqu'un qui me manque, il y a quelqu'un avec qui j'aimerais être, il y a quelqu'un. Et il faut que ce soit réciproque. C'est toute la question. Parce que vous avez peut-être eu aussi des avances de quelqu'un, ou vous-même vous êtes dit, tiens, je me demande si je n'aimerais pas mieux te connaître, etc. C'est quoi ton téléphone, etc. Bon, voilà. Donc, et puis vous avez vu que ça n'a pas marché. Ben non, non. Pas de mieux de connaître, c'est ce que s'appelle un râteau, mais c'est intéressant de dire quelles sont les personnes qui m'attirent et quelles sont les personnes qui me conviennent. Vous voyez, par exemple, tout à fait d'autres choses, mais je vois avec la personnalité que j'ai, il y a des personnes que je ne peux pas accompagner spirituellement. Ça ne va pas matcher, ça ne va pas aller. C'est tout à fait autre chose qu'une amitié, parce que c'est pas d'abord une amitié, un accompagnement spirituel. Mais ça, je sens que ça ne va pas matcher. Je sens que, pour ça, je me donne toujours 2-3 rencontres. Je me dis, tiens, il y a des personnes, je sens que je... Mais c'est au niveau humain, je veux dire, c'est au niveau de la patte humaine, je sens qu'on va se comprendre, d'autres, on ne va pas se comprendre. Vous voyez, donc la même chose pour vous, alors de façon très différente bien sûr, mais posez-vous la question, quelles sont les personnes, à travers les amitiés que je peux avoir de l'autre sexe, qu'est-ce que je découvre des personnes qui me conviennent, du style d'homme, du style de femme qui me convient. Oui, donc c'est dans le sens de connaissance de soi, et qu'est-ce qui ne me convient pas, et pourquoi ça ne me convient pas. Hein, donc... Voilà, je pense que c'est un point qui est important. Maintenant, il y a aussi ce célibat qui est le signe de l'amour. Ce célibat, quel signe de l'amour qu'est le célibat consacré? Il y a des grandes vocations, et c'est vrai que c'est peut-être pas facile à entendre, mais en fait, la vocation au mariage, comme la vocation au célibat consacré, quelles que soient ses formes, c'est les vocations au don. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas engagé dans l'une ou l'autre forme que vous n'êtes pas appelé à une vocation à la sainteté. Vous êtes appelé à la sainteté par votre baptême, par la pratique de la charité, du commandement nouveau. C'est ça qui va permettre d'ouvrir, au fond, votre cœur juste passer en faisant le bien, comme on dit de Jésus, il passait en faisant le bien. Oui, donc soyez attentifs à ce célibat qui est le signe de l'amour, qui est justement d'une disponibilité, qui est une manière de rentrer en contact, mais aussi d'une vraie interrogation, qu'est-ce que le Seigneur me demande ? J'aime à penser que dans notre vie, consacrée dans le célibat, donc un célibat qui est choisi, est embarqué aussi tous ceux pour qui le célibat est douloureux. Vous voyez, il y a une forme de compassion dans cette consécration où on embarque d'autres. Et que chacun d'entre vous, face au Seigneur, se pose la question, à quoi je suis appelé ? Est-ce que j'ai entrevu la possibilité d'un don total ? Autant, il y a deux styles de vocation, je vous le disais, il y a deux styles de manière d'aimer, il y a un amour préférentiel qui est l'amour dans la vie matrimoniale, et un amour universel qui est dans la vie du célibat consacré. Hein? Donc, c'est vrai, alors, c'est une question. Le célibat non consacré n'est pas reconnu comme une vocation. Le célibat, j'allais dire, subi, n'est pas reconnu comme une vocation. Alors, c'est une question qu'on pose, que vous posez souvent à l'Église. Il y a eu un colloque il n'y a pas si longtemps au Bernardin, je pense, sur cette question-là du célibat. On dit, mais est-ce que le célibat non consacré... Ben, aujourd'hui, l'Église ne le reconnaît pas comme une vocation. Parce que, bien souvent, c'est vécu douloureusement. Et donc, une vocation, c'est un appel au bonheur, comme vous le savez. Mais aussi, ce n'est pas le fruit d'un choix. Or, toute vocation, si elle est une vocation à l'amour, c'est une vocation qui est le fruit d'un choix. Aimer, c'est choisir. Choisir, c'est aimer. Donc, c'est vrai que c'est peut-être difficile d'entendre ce que je vous dis, difficile de le vivre. C'est un questionnement pour l'Église. En tout cas, pour le moment, on sent que cette question du célibat qui n'est pas consacré et du nombre assez important dans l'Église de personnes, et jeunes, je ne parle pas de personnes veuves, je ne parle pas de personnes déjà beaucoup plus âgées, etc. Mais des personnes jeunes qui... Et à la fois, je trouve que vous êtes, et c'est pour ça que je me réjouis de ce groupe-là et de tant de groupes, vous êtes des forces vives pour l'Église. Je pense que l'Église est ce lieu du don où vous pouvez vous enraciner. Donc, de vivre positivement son célibat, c'est ouvrir les possibles, ouvrir les questionnements à ce qui pourrait advenir, ne pas jamais, en tout cas, répondre à la question de la consécration dans le célibat choisi. Il faut que vous posez la question et vous y répondez. Mais tout chrétien, tout disciple de Jésus doit se poser la question. C'est une évidence. Ensuite, vous y répondrez en fonction de vos appels, mais vous ne pouvez pas éluder la question. Ça me paraît absolument clair. Et puis de se dire que ce célibat qui est le signe de l'amour dans la vie consacrée et sacerdotale, il est vraiment un lieu d'épanouissement, et je veux en donner témoignage, et le Père certainement aussi. C'est un lieu d'épanouissement, c'est un lieu de contact, de devenir frère universel d'une certaine manière, avec qui nous rend justement possible le célibat d'imitation du Christ, etc. C'est un lieu d'accomplissement, d'épanouissement. Hein, donc, je trouve que c'est cette complémentarité des vocations, mais en même temps, cet appel au discernement, c'est quelque chose qui est absolument central dans votre vie, dans l'étape de vie où vous êtes, hein, de vous poser bien les questions d'essayer d'y répondre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en cette soirée. Et peut-être qu'il y a place à des questions, parce que mon propos soulève peut-être des questions ou des compléments ou des désaccords ou des témoignages ou voilà. Oui. Alors, cette question du mariage tardif, c'est un fait de société, absolument. C'est un fait de société. Comment l'expliquer? Alors, la quantité de séparation dans le mariage, de la fragilisation du mariage lui-même, n'est pas étranger. Hein, ça n'est pas étrangère, cette fragilisation, au fait de s'engager plus tardivement. Parce que vous dites, qu'est-ce qui va faire que je ne vais pas non plus être comme mon oncle, ma tante, voir mes parents, voilà, que je vois ou voir des gens, des amis qui sont mariés il y a 10 ans et qui se séparent, etc., etc. Donc, il y a une sorte d'émiettement, hein, de la dimension de corps n'est plus au rendez-vous, de la société n'est plus encore, c'est une juxtaposition d'individus. Et donc ça, évidemment, ça n'aide pas. Je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on se pose plus la question des échecs. Est-ce que peut-être la peur de l'engagement, peut-être, oui, je pense que c'est. Mais c'est plutôt l'échec, je dirais, plutôt l'échec que l'engagement. Parce que par ailleurs, vous êtes très engagé dans d'autres choses. Hein, il y avait quelqu'un qui avait cette formule-là, hein, célibataire solidaire. Vous êtes en même temps très solidaire de beaucoup de causes. C'est ça qui est étonnant. Hein. C'est donc c'est pas tellement l'engagement, alors peut-être l'engagement long terme, mais c'est cette fragilisation qui fait que c'est pas porté par la société, qui fait que on a peur de l'échec, peut-être trop centré sur soi-même, c'est possible. Ça, c'est une des possibilités, une des raisons. Une autre question ? Allez-y. Et alors, c'est quoi la question? Le fait d'éloigner des personnes parce que ce n'est pas une vocation, c'est ça, le célibat non consacré, c'est ça? C'est ça la question. Parce qu'il y a pas mal d'écho du coup. Bon. Il faut absolument le. Oui, je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas. C'est vrai qu'il y a une forme de dire ben, on ne rentre pas entre guillemets dans les cases. Bon, et donc le fait de sentir que voilà, on ne rentre pas dans les cases, alors que pour la société en général, vous soyez déjà se préoccupe très peu de votre état de vie. Dans la vie professionnelle, on ne fait pas du tout état de son propre état de vie, il n'y a rien du tout. Bon, tout est équivalent, si vous voulez. Dans l'Église, tout n'est pas équivalent. Donc oui, ça peut éventuellement et à la fois, je n'exclus pas ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Je pense que ça peut décourager les personnes de dire ben, finalement ce que je. Alors c'est pas ce que je vis, mais ce que je vis actuellement projeté sur la vie n'est pas reconnu comme un état de vie. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qui est. C'est pas reconnu comme un état de vie. C'est-à-dire que un lieu de définitif de don, un lieu de don sur le long terme, c'est un moment. Voilà, donc, sauf à moins que j'ai décidé de dire, ben voilà, pour X raisons, à un moment donné, j'arrête de chercher quelqu'un, etc., et je me consacre aux autres, à une cause. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir beaucoup de personnes, je pense, de 40, 50 ans, qui sont célibataires, il y a autre chose dans leur vie. Il y a aussi le besoin de se donner. Vous êtes, sans attendre 40, 50 ans, mais vous êtes des forces vives pour l'Église. Et moi, je trouve que c'est très important de dire que à l'époque que vous vivez, dans la situation où vous êtes tellement précieux pour l'Église et tellement un lieu où l'Église peut trouver des forces pour l'évangélisation, par exemple. Beaucoup de ceux qui, je pense au groupe Annuncio, par exemple, qui est un groupe d'évangélisation, c'est beaucoup des jeunes pros aussi, et qui, dont certains, en tout cas la grande majorité, sont célibataires. Donc, de se dire que... Mais il y a des personnes qui, ensuite, avec le temps, disent, bah, finalement... Comme si on avait besoin de trouver une cause, vous voyez, qui défende ma vie, qui donne sens à ma vie, un lieu de don. Alors ça peut être la vie associative, ça peut être, mais ne pas rester sans un lieu de don de vous-même. Vous voyez, donc oui, alors maintenant de dire en fait c'est pas une vocation reconnue comme un état de vie, je trouve ça peut être aussi là. C'est un peu provocateur, c'est pas forcément facile à entendre, ce genre de, je comprends très bien, mais ça peut être de dire, mais tiens, est-ce qu'au fond, ça ne me pousse pas à aller plus loin dans le don de moi-même, à un enracinement dans telle ou telle circonstance de ma vie où je peux porter du fruit ? Ok. C'est pas simple, parce qu'on a le rôle de joker. Les relations hommes-femmes, bon, c'est bon. Les amitiés hommes-femmes. Vous voyez, je ne doute pas qu'il y ait des amitiés. Mais comme je vous l'ai dit, on est d'abord amis du corps de l'autre. Quand je ne parle pas d'intimité ni quoi que ce soit, ne serait-ce que le visage de l'autre. Hein, donc, bon, me parle. Et si on... Remarquez bien, remarquez dans vos amis, il n'y en a aucun qui vous répugne. Aucun dont le corps vous répugne. Dont le visage vous répugne. C'est intéressant de voir ça. Il y a des personnes dont le visage ne vous est pas agréable. Regardez dans vos amis. Tous vos amis ont des visages agréables pour vous. Peut-être c'est répugnant pour les autres, mais pour vous. Donc, c'est ce que je voulais dire, on est amis du corps de l'autre. Dans ce sens-là, du visage de l'autre, on va dire peut-être plus clairement. Maintenant, je trouve que c'est un apprentissage à l'altérité, ces relations hommes-femmes. À la maturité justement de voir où est-ce que j'en suis, est-ce que ça va être juste une forme de compensation, et soyez attentifs à ça, que la relation homme-femme ne soit pas une compensation à une solitude. Est-ce que je trouve que maintenant quand on rentre dans une dimension de couple et a fortiori du mariage, etc., votre conjoint sera la dernière amitié de l'autre sexe. Votre conjoint sera la dernière amitié de l'autre sexe. Après, il n'y en aura plus. Je ne sais pas, je me fais comprendre ça. C'est-à-dire qu'après, alors celles que vous avez eues avant, il faudra les redimensionner, mais après, il est clair qu'il n'y en a plus. Pourquoi ? Parce que ami veut dire baisser la garde, laisser voir à l'intérieur de soi-même. Or, c'est précisément aussi ce qui est une condition de l'amour. Donc, vous mettriez en danger... une fois engagé dans la vie matrimoniale, que de baisser la garde, de laisser voir à l'intérieur de vous-même, de vous confier. Être ami, forcément, c'est se confier, sinon on n'est pas ami, si on se confie pas. Donc, à des personnes de l'autre sexe, donc ce serait mettre clairement en danger votre couple. Donc, maintenant, là où vous êtes actuellement, je pense que ça peut être... Justement, où on voit l'autre, c'est aussi laisser une chance à ce que l'autre puisse se révéler, etc. Bon, maintenant, voilà, dans une relation comme ça, vous devez être très clair. Si vous commencez à voir qu'il y a un côté trop tactile, que le corps est là, trop au rendez-vous, etc., soit vous dites, mais on chemine ensemble, on fait mieux connaissance, etc. Et encore une fois, sur cette question-là, c'est très important, c'est... Et là aussi, il y a une manière chrétienne de vivre les relations amoureuses. C'est-à-dire quoi ? À aucun moment, j'exclus le mariage. Sinon, c'est pas honnête. Si dans une relation amoureuse, vous dites, de toute façon, ça va pas le faire, et que vous dites rien à l'autre, parce que c'est juste sympa d'arriver à deux dans un dîner où on se tient chaud en hiver, mais ben, c'est utiliser l'autre. Donc, c'est là où il y a une forme de... si à un moment donné vous dites ça n'ira pas vers un engagement, vous terminez la relation. Vous voyez, donc ça, je pense que faut être clair là-dessus. Mais il peut y avoir des relations hommes-femmes. Maintenant, c'est tellement voilà qui, si vous sentez une ambiguïté, si vous sentez une attirance, si vous sentez un côté tactile qui se développe, etc., alors soit c'est l'appel à quelque chose d'autre, et du coup, posez des mots. Hein, soit vous dites, mais non, reste un peu, prenons un peu de distance, quoi. Donc, voilà, c'est. Mais c'est pas si facile à gérer. C'est pas si facile à gérer. Et je vois les couples, une fois mariés, etc., bon, en fait, c'est plutôt entre personnes de même sexe que les amitiés se développent. C'est plus, il y a un côté plus simple, moins ambigu, moins dans la séduction. Bonsoir. Alors, comment les aider? Je pense que déjà, si vous avez dans votre entourage des personnes qui se posent la question d'une consécration, quelle qu'elle soit, eh bien, je pense que c'est une grâce. C'est une grâce. Et vous avez comme ami une responsabilité. Vous avez comme ami une responsabilité. Donc, comment accompagner des personnes qui sont dans un chemin de consécration, se pose en tout cas la question de la consécration, en tout cas de ne pas y faire obstacle. Parce que parfois, ce que j'ai vu, je pense, je parle pour les garçons, etc., eh bien voilà, c'est sûr que ça a été, c'est un grand renoncement, et parfois des relations, des amitiés féminines ont mis un obstacle à ce qu'un garçon se. Voilà, quand vous voyez quelqu'un, un garçon ou une fille, mais je pense surtout aux garçons qui se consacrent, etc., c'est lui foutre la paix. C'est-à-dire, vous n'essayez pas de. Parce que forcément, c'est des gens équilibrés, formidables, extraordinaires, etc., donc attirants, et donc du coup, vous dites, tiens, il est vraiment super, c'est un gars. Bon, voilà, mais que le bon Dieu choisisse des personnes super, on ne peut que s'en réjouir. Et donc, forcément, peut-être attirante, cette personne. Mais justement, si vous êtes à côté de quelqu'un qui se pose des questions, vous fuitez la paix complètement. Vous n'essayez ni d'avoir de. Vous lui laissez faire son chemin. Ça, pour moi, ça c'est tolérance zéro là-dessus. Vous n'essayez pas d'avoir une amitié spirituelle. Parce qu'il n'y a rien de ça, rien de tel pour faire capoter le truc. Okay. Ensuite, autre point, comment aider ceux qui sont dans un célibat douloureux? C'était ça c'est ta question ça, comme... C'est ça. C'est ça, célibat, subi, etc. C'est... Où ils ne sont pas heureux, qui sont. J'aime bien cette phrase du philosophe Pascal. Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Voilà nos maîtres spirituels. Voilà, si c'est une personne qui est dans la foi, si c'est une personne qui n'est pas dans la foi, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est sûr que là, bien souvent, cette personne-là essaiera d'aller de bras en bras, etc., essayant de combler une solitude, et enfin créant la solitude, finalement. Hein. Parce que quand on veut combler la solitude, on ne fait que l'enfoncer, que la creuser. Mais si c'est quelqu'un qui est dans la foi, d'accueillir dans. Et de dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas dans une relation, tu n'es pas dans une décision plus définitive d'état de vie, que tu ne peux pas faire du bien. Pose-toi la question, quel est le bien que je peux faire? Quel est le bien que je peux faire? Vous savez ce que c'est le péché par omission? Vous savez qu'on peut pécher en action, par omission. Péché par omission, c'est le bien que j'aurais pu faire, je n'ai pas fait volontairement. C'est pas j'ai oublié de faire ceci. Non, non. J'ai vu, justement, le bien péché par omission, j'ai pas oublié. J'ai omis de faire un bien que j'ai vu cette personne avec son cabas chargé et que j'aurais pu aider. J'ai vu le bien à faire. Par égoïsme, j'ai préféré rester en retrait et suivre mon chemin. La parabole du bon samaritain. renvoie à ça. Mais du coup, je me dis, des personnes qui sont dans cette... Vous pouvez les aider en disant, quels sont tes talents? Regarde tes talents. Et puis, vous pouvez faire miroir par rapport... Moi, ce que je vois en toi, tiens, je vois tellement de choses positives en toi, je vois tellement de... Prends confiance en toi. Parce que bien souvent, ce que vous dites, c'est bien souvent, ça s'enracine dans un manque de confiance. Soyez l'un pour l'autre des miroirs qui vous aident à avancer et à découvrir vos talents. Est-ce que c'est pas ça aussi vivre positivement le célibat? Vous voyez, osez vous dire, et c'est là où je trouve qu'il y a une forme de simplicité, on n'est pas dans la mondanité. Osez vous dire l'un à l'autre, écoute, moi je vois en toi des choses tellement belles, tellement... dans une amitié, etc. Je trouve que tu as tel charisme. Et ce serait bien, par exemple, au sein du groupe, qu'on puisse, je ne sais pas comment vous faites, mais qu'à un moment donné, il y a une sorte de... Je ne sais pas quel lien vous avez. Est-ce que vous êtes proche... les uns, j'imagine, ça doit un peu dépendre, mais dans un cercle un peu proche, justement dans ce premier cercle, de dire, de demander à l'autre de faire miroir, de dire, tiens, où est-ce que tu vois mon talent? Où est-ce que tu vois que je porte du fruit? Et peut-être aussi vous d'encourager, de donner confiance. Bonsoir. Les signes. Ok. Alors les signes. Les signes. Alors, ils sont à la charnière, j'allais dire, des critères objectifs et subjectifs de discernement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs critères, c'est pas le thème de la soirée, mais des critères objectifs et subjectifs. Il y a des critères de discernement qui concernent le sujet et d'autres qui sont objectifs, c'est-à-dire qui sont visibles par tous. Le signe, pour qu'il soit signe, il y a deux conditions. Premièrement, la personne qui le voit reconnaît que c'est un signe. Exemple, ça peut être une rencontre. Exemple, une parole de Dieu. Tel ou tel événement dans ma vie. Je vois comme un signe. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le signe soit validé par un aîné dans la foi. Si quelqu'un qui est aguerri aux questions du discernement, qui vous dise oui. Là, évidemment, ça peut être quelque chose. Mais un signe ne fait pas une vocation. Un signe peut être un élément d'une mise en route. Vous voyez, je pense donc il faut les deux. Donc soyez attentifs à ça et ne pas voir des signes partout. Voilà, si on tire la même parole de Dieu, mais mon père, est-ce que c'est pas un signe qu'il faut qu'on se mine ensemble? Oui, peut-être, mais bon, peut-être que non. Juste, c'était des paroles qui étaient collées, j'en sais rien, je sais pas comment ça s'est passé. Mais bon, voilà, donc c'est ce qu'on appelle le providentialisme. Le providentialisme, c'est voir des signes partout. Des signes partout, ah ben le Seigneur m'appelle là, le Seigneur m'appelle là, ben du coup ça, on virevolte, voilà. Oui, qu'il y ait des signes, mais je pense que en tout cas, les faire valider pour que ce soit des vrais signes. Ah, il y a une question là. Est-ce que la prière peut permettre de passer au-delà de certains critères? Oui, alors, c'est-à-dire que... C'est pas facile de répondre à cette question, de dire, bon, est-ce qu'en fait, j'ai des critères, etc., mais je suppose que c'est peut-être plus dans une relation amoureuse qu'amicale, et du coup, les critères que j'ai, l'autre ne correspond pas, ne matche pas, bon, est-ce que la prière peut m'aider à... Oui. Peut-être, en tout cas d'ouvrir son cœur, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est, je pense par exemple, des critères de milieux sociaux, par exemple des critères d'implication dans la foi, qui sont souvent parfois assez différents, etc. Est-ce qu'on peut être en couple avec quelqu'un qui n'a pas le même milieu social? Est-ce qu'on peut être en couple avec quelqu'un qui n'est pas croyant ou pas une implication dans la foi comme moi, etc. Donc voilà, c'est... si cette personne-là, d'abord, est en face de vous, de se poser la question, est-ce que vous êtes heureuse avec cette personne-là? Je pense que c'est la première question. Et puis, il y a une certaine liberté intérieure, parce que bien souvent, soit il y a des vraies difficultés et qui vous empêchent d'avancer, soit c'est des questions qu'on appelle de loyauté. Les questions de loyauté, c'est-à-dire que dans le regard de votre famille, ce qui est attendu par votre famille, il y a un certain nombre de critères. Et du coup, vous-même, vous dites, la personne ne correspond pas. Est-ce que dans la prière, je peux... Oui, est-ce que dans la prière, j'acquiers une liberté de ce intérieur, la prière. J'accueille une liberté intérieure qui me permet d'accueillir une personne autre. Par exemple, moi, j'ai fait préparer au couple, énormément de couples, mais j'ai préparé des personnes, par exemple, des mariages. Elle était catholique, mais très engagée, lui, juif. Par exemple, bon, mais elle dit, jamais j'aurais pensé me marier avec un juif. Jamais, jamais, jamais de ma vie. C'était une famille archi-catho, etc. Bon, finalement, ça a l'air de plutôt bien se passer, etc. Bon, ensuite, pareil, lui, pas du tout croyant, et plutôt de milieu populaire, elle de milieu aristo, et très impliquée dans sa foi, tu vois. Donc, des choses comme ça, ben, je trouve qu'ils ont fait un cheminement intérieur, et ça, c'est vrai que la prière a pu aider, parce que justement, ça aide à passer au-delà des schémas. Ce qui est compliqué pour vous, ça répond aussi à l'autre question là, une autre question, pourquoi on retarde beaucoup le mariage? Il n'y a plus de modèle. Oui, c'est ça la question, c'est ça qui n'est pas facile pour votre génération. Si je me marie avec quelqu'un du même milieu, machin là, mais il y a des gens du même milieu, c'est là qui ont explosé en vol. Vous en connaissez autour de vous. Donc, on ne peut pas dire qu'un modèle soit sûr, soit clair, on veut se rassurer, etc. Et des gens parfois très divers, un peu improbables, et qui marchent. Et je trouve que même qu'on soit dans le même village ou la même rue du même village, deux familles, c'est deux mondes. Vous voyez, donc, je pense que la prière, ça peut aider parce que ça ouvre le champ des possibles. Vous voyez, je pense que ça ouvre justement d'accueillir peut-être une personne à laquelle je ne m'attendais pas et qui vient me toucher intérieurement, qui me touche, qui me... Voilà, une personne, vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle personne. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est bon? Alors, merci.